La guerre d'Algérie est enfin reconnue comme telle, officiellement. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui une proposition de loi, et cela 37 ans après la fin du conflit. Jusqu'alors, on avait toujours parlé d'une opération de maintien de l'ordre. C'est donc la fin d'un tabou. Le conflit avait fait, je vous le rappelle, entre 500 et 600 000 morts.
Alors nous venons d'entendre une archive de 1999 du JT de France 2, revenant sur l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi reconnaissant enfin comme telle la guerre d'Algérie. Depuis la parution du rapport Stora en janvier de l'année dernière, les questions mémorielles sur la colonisation en Algérie sont toujours aussi prégnantes. C'est dans ce cadre, et à l'occasion des 60 ans des accords d'Évian, que les archives départementales d'Ille-et-Vilaine proposent toute une série d'événements visant à mettre en lumière ce passé douloureux. Pour en parler, nous recevons Jean-Michel Le Guenec, conseiller départemental délégué aux relations institutionnelles d'archives et de patrimoine, de mémoire et des relations avec le monde combattant. Jean-Michel Le Guenec, bonjour.
Bonjour.
Je l'ai dit, la question mémorielle sur la colonisation et la guerre d'Algérie reste au cœur de l'actualité, notamment depuis la parution du rapport Stora, qui invite à un dialogue et à une réconciliation des mémoires entre la France et l'Algérie. 60 ans après les faits, pourquoi ce travail mémoriel est-il toujours si difficile en France ?
C'est une grande question. Et il est difficile parce que de fait, il a fallu énormément de temps pour nommer les choses. L'archive que vous venez de diffuser l'indique bien. Il a fallu 37 ans pour parler de guerre. Auparavant, on parlait d'opérations de maintien de l'ordre. Ce qui a vraiment créé un problème générationnel, voyez-vous, pour les soldats appelés du contingent qui sont allés là-bas, vis-à-vis de leurs aînés, qui sortaient de la Seconde Guerre mondiale pour la plupart, ils n'avaient pas le même statut au regard de leur passé de combattant. Ça n'a pas facilité, par exemple, le dialogue père-fils ou parent-enfant. Par exemple, on comprenait mal pourquoi ils se plaignaient, ils n'étaient pas partis faire la guerre, eux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était la guerre d'Algérie commence en 1954, c'est moins de 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce différentiel déjà crée un problème de compréhension entre les générations, pour ne parler que de ça, au sein de la communauté française. Mais évidemment, il y a d'autres questions qui se posent. Stora dit que d'un certain côté, il y a trop de mémoire instrumentalisée du côté, effectivement, algérien, un déficit de mémoire du côté français. En fait, je pense que la problématique, c'est que cette période a été très 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 douloureuse pour la France et pour les Algériens aussi, évidemment. Mais en France, on a mis beaucoup de temps à digérer les choses parce que c'était inexorable le fait que l'Algérie accède à l'indépendance. C'était assez logique que cela advienne. Les modalités selon lesquelles c'est advenu, ça n'a pas été maîtrisé. Il faut quand même se rendre compte que ce conflit va faire chuter deux gouvernements et une république. C'est ce qui va amener le retour du général de Gaulle. Vous voyez, c'est quelque chose de très 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 prégnant à un moment où la France est en pleine reconstruction. Donc oui, je pense les choses n'ont pas été analysées à leur juste mesure au moment où ils se sont déroulés, au niveau de la communauté globale, je pense. Et ensuite, ça a été douloureux pour ceux qui sont partis. Et ils n'ont pas forcément eu le cadre pour en parler. Même ceux qui souhaitaient en parler, parfois se heurtaient à des oreilles closes. Donc,
on ne voulait pas entendre.
Oui, je pense qu'on ne voulait pas entendre, forcément. Tout n'était pas facile à dire non plus, et je pense qu'on le sait tous. Hein. Certains se sont réfugiés dans le mutisme et n'ont jamais dit, et ne diront jamais. Certains ont dit, et très clairement, ce qu'ils avaient vécu. Mais on a mis trop de temps à reconnaître leur douleur.
Le département d'Ille-et-Vilaine est un département qui est éloigné de la terre du conflit. C'est un département qu'on pourrait considérer comme tranquille, oui, en tout cas. Quel est son rôle, finalement, pendant cette période ? Est-ce qu'il a joué un rôle ? En quoi est-ce qu'il est lié aussi à la guerre d'Algérie ?
C'est une très bonne question, parce que c'est effectivement comme ça qu'on a abordé les choses. Nous restons sur notre territoire de légitimité, qui est le territoire de l'Ille-et-Vilaine. Bah, évidemment, comme tout département, y a des gens qui sont partis, appelés du contingent ou militaires de carrière. Hein. Nous sommes aussi une région militaire, avec le siège de la 3e région militaire à Rennes. Donc, de toute façon, déjà des protagonistes sur le territoire. Ensuite, cette question du conflit algérien a secoué l'opinion publique. Et il y a eu des manifestations, soit pro-Algérie française, soit anti-Algérie française, sur notre territoire également. Et ça veut dire qu'au niveau des archives départementales, nous avons dans nos archives, toutes les archives publiques, les rapports de police, les archives aussi des médias. Et puis nous avons aussi surtout les archives judiciaires. Notamment, il y a eu des procès dépaysés à Rennes, et notamment le plus célèbre d'entre eux, c'est celui de Maurice Houdin, hein, enfin celui que sa famille a intenté à l'État français, ce mathématicien enlevé par l'armée française et qu'on n'a jamais, jamais retrouvé la dépouille. Donc ce procès a eu lieu à Rennes. Donc il y a déjà beaucoup de choses, si vous voulez, sur le plan des archives publiques qui sont dans les fonds des archives départementales. Et donc les archives départementales ont édité le guide des sources il y a 2 ans maintenant. Et c'est pour ça que cette année, 60e anniversaire, on s'est dit... Bah, c'est peut-être le dernier anniversaire symbolique, 60 ans après, où on peut encore avoir des témoignages de gens qui ont vécu l'événement. Et on a lancé le 18 mars dernier un appel à dons privés. Alors soit des correspondances, des photographies, des films ou toutes sortes de supports que les gens peuvent nous mettre à disposition pour compléter ce fonds et permettre justement ce travail à la fois de recherche, d'histoire, etc. pour comprendre. La question qui se pose en fait, c'est que sur la guerre d'Algérie, chacun est resté un peu dans son couloir mémoriel. C'est pour ça qu'on a baptisé ça 60 ans après, si enfin on en parlait. On aurait même presque pu dire si enfin on s'en parlait. Parce que de fait, il y a eu beaucoup de publications, beaucoup de documentaires, beaucoup de films, beaucoup d'écrits. Mais chacun est resté sur sa ligne de mémoire et on voit bien qu'il y a une difficulté à échanger autour de ça. Et l'ambition au travers de la programmation qu'on a bâtie, avec des réalisations qui sont très majoritairement des productions régionales et départementales, eh bien c'est de permettre justement d'éclairer ces problématiques avec plusieurs points de vue, plusieurs angles. Et l'objectif, c'est que chacun puisse apporter son témoignage, sa contribution, dans le respect mutuel. Notre objectif, c'est que tous ceux qui vont venir demain aux archives départementales ou le 13 décembre puissent réagir à ce qu'on leur propose, mais toujours dans ce souci d'écoute et de compréhension mutuelle de comment chacun a pu vivre de là où il était, ou comment il le vit aujourd'hui, alors qu'il n'était pas né, par exemple, au moment des faits, comment ça résonne pour lui.
Mais justement, on va en parler, puisque ce mardi là, se tiendra un deuxième temps fort autour de la guerre d'Algérie, avec la projection de 2 films documentaires, dont le premier, Retour en Algérie, d'Emmanuel Audrin, qui donne la parole aux soldats français. Alors on va écouter un extrait et on en parle juste après.
On a abusé de nous en Algérie, on nous a fait marcher, on nous a fait croire qu'on défendait la patrie, la liberté. Quelle liberté? Et pour qui?
Alors on vient d'entendre le témoignage d'un Français ayant réalisé son service militaire pendant la guerre d'Algérie. Ici on entend le regret, forme de rancune aussi peut-être vis-à-vis de l'État français. Pourquoi est-ce qu'il est important d'entendre la voix de ces anciens combattants? Pourquoi mettre en avant la voix des soldats, les soldats français?
Alors d'abord, dans notre démarche, il n'y a pas que ces voix que l'on fait entendre, mais dans cette séquence-là, de fait, c'est le cas. C'est important d'entendre toutes les voix. Chacun a vécu sa guerre d'Algérie, si j'ose dire. Et de ce point de vue, chacun peut avoir sa vérité. Donc ce qui est important, c'est de confronter ces points de vue et ces vérités, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, dans le respect mutuel des uns et des autres. Celle-ci est importante parce qu'elle représente une opinion importante dans les rangs des appelés du contingent. Tous n'ont pas vécu les mêmes choses selon leurs endroits d'affectation, selon les périodes aussi à laquelle ils ont été envoyés là-bas, hein, puisque selon les lieux et les moments, les choses étaient différentes. Mais on ne peut pas nier que cette question de morale se pose pour un certain nombre de soldats, et c'était normal qu'on leur offre la parole. C'était le sens de la démarche d'Emmanuel Audrin dans ce film.
Le second documentaire, lui, proposé par Larbi Benchia, porte lui sur les essais nucléaires au sud du Sahara, lesquels se sont poursuivis après les accords d'Évian. En 1960, Jules Mock, ancien ministre français, déclarait devant l'ONU que les essais de la bombe atomique étaient sans danger pour les populations du Sahara, de l'Algérie et du Maroc. Alors, c'est difficile de ne pas être sceptique. Que nous apprend le documentaire de Larbi Benchia sur ces essais ?
Bah d'abord, évidemment, ça n'est pas sans risque. Les essais nucléaires ne sont jamais sans risque. Larbi en parlerait bien évidemment mieux que moi, puisque en fait, il a abordé cette question. Alors, Larbi est d'origine algérienne, mais vit en France depuis fort longtemps, et il a été notamment journaliste. Et la première fois qu'il est allé là-bas sur ce thème, c'est dans le cadre d'un voyage de presse organisé. Et lui, dans son souvenir lointain d'Algérien, il savait qu'il y avait eu des essais, mais on n'en parlait pas vraiment, et chez nous non plus. Et en fait, la question, elle se pose au travers de gens qui, effectivement, ont des séquelles consécutives à ces essais. Et ce que ça nous révèle aussi, c'est qu'en fait, la problématique des essais nucléaires ont été au cœur des accords d'Évian. C'est-à-dire que la revendication de la France de pouvoir faire, d'abord de garder la souveraineté sur le Sahara, a été une pierre d'achoppement. Et ensuite, la deuxième pierre d'achoppement, une fois que les Algériens ont dit non, l'indépendance, elle est totale, elle est jusqu'à la frontière, donc le Sahara y compris. Plus ils savaient bien qu'il y avait des ressources naturelles importantes. Il a fallu négocier la possibilité quand même de faire ces essais, puisque c'était un enjeu de souveraineté pour la France au regard du déploiement des forces nucléaires. Enfin, on est quand même dans la période de la guerre froide. Hein. La tension est à son maximum. Il est important pour notamment le général de Gaulle de disposer de l'arme nucléaire, de l'arme de dissuasion, comme on dit. Donc il fallait faire ces essais. Mais de fait, si on compare les sites d'essais américains, par exemple, qui sont au milieu de déserts, mais très très éloignés d'habitations. Là, on est quand même beaucoup plus proche d'habitations. On est certes dans une région désertique, mais il y a quand même une ville à quelques dizaines de kilomètres. C'est pas... Donc de fait, oui, ça n'est pas sans conséquences. Et d'ailleurs, les conséquences, parce que malheureusement, c'est le problème du nucléaire, l'effet est durable très très longtemps.
Dure toujours.
Et dure toujours, évidemment.
C'est quoi les prochains rendez-vous des archives départementales pour justement discuter, échanger autour de l'Algérie?
Là, on est vraiment donc mardi 8 novembre, on est autour de ces trois temps forts. Premier temps fort, une conférence du général Fournier qui, lui, va aborder la question des soldats disparus. Parce que malheureusement, il y a entre 800 et 1000 soldats français qui ne sont jamais revenus et dont on n'a pas la trace. D'accord. Donc c'est aussi important, eux ne peuvent pas prendre la parole, hein, mais c'est important qu'on ait un temps aussi qui soit consacré à ces disparus. Ensuite, il y a donc le film d'Emmanuel Audrain et puis donc le film de Larbi. On est vraiment dans le cœur du conflit. D'accord. Et le 13 décembre, là on sera plus sur une approche de fiction, puisqu'on va remettre à l'honneur le travail de René Vautier, cinéaste aujourd'hui disparu, mais cinéaste breton, qui a d'ailleurs fini ses jours sur le sol d'Ille-et-Vilaine. Et donc on va remettre à l'honneur son film « Avoir 20 ans dans les Aurès », qui est paru en 1971, qui a été le premier long métrage sur cette question de la guerre d'Algérie. Alors avec toute la forme que ce film a, avec la patine du temps, évidemment. Mais c'est intéressant parce que ce film a tout de suite remporté l'adhésion du public. Hein. Il a eu le prix du public, notamment au Festival de Cannes. Et puis ensuite, comme Larbi Benchia avait entamé un travail de fond avec René Vautier dans un projet documentaire, il dispose d'un certain nombre d'archives et d'interviews inédites. Et donc la deuxième partie de la soirée sera consacrée au rapport que René Vautier entretenait avec l'Algérie. Et donc ça s'intitule « La caméra des Aurès ». Et donc puisque René Vautier a cette particularité d'avoir filmé la guerre pendant la guerre du côté des Algériens. D'accord. C'est un cinéaste qui était très engagé, qui dénonçait la colonisation, qui avait fait Afrique 50, etc. Donc il était très préoccupé de dénoncer les méfaits de la colonisation. Et comment dirais-je, ensuite il a été appelé par le régime algérien pour créer la première école de cinéma à Alger. Donc il a à la fois ce regard pendant la guerre, ce regard d'auteur d'un film de fiction sur avoir 20 ans dans les Aurès, et puis la création aussi de cette école de cinéma dans les années 60 à Alger. Donc c'est intéressant au travers d'interviews et de propos inédits de revisiter cette mémoire que nous a laissé René Vautier.
Donc ce dernier temps fort, c'est le 13 décembre, c'est bien ça ?
Le deuxième mardi du mois de décembre, comme ça a été le deuxième mardi du mois d'octobre et le deuxième mardi du mois de novembre.
Très bien. Eh bien, Jean-Michel Le Guenec, merci.
Merci à vous.
Alors, on le rappelle, à l'occasion de l'anniversaire des 60 ans des accords d'Évian, le 19 mars 1962, le département d'Ille-et-Vilaine et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'Ille-et-Vilaine proposent une programmation culturelle transgénérationnelle, citoyenne et pédagogique. Dans ce cadre, des projections, notamment de deux films dont on vient de parler, sont proposées aux archives départementales demain, mardi 8 novembre, pardon, à partir de 17h30. Allez-y, c'est gratuit et tout public.
Dans la vie, il y a trois problèmes avec les fatalités.